Juliette Rangeval.
Bonjour, Londres s'est réveillée un peu groggy ce jeudi matin, encore un peu sonnée par le gros coup de folie qui a frappé Westminster, le siège du Parlement, pour la rentrée parlementaire. Pendant quelques heures, on s'est traité de nom d'oiseau, littéralement. On a multiplié les défaites du côté de Boris Johnson, encore tout neuf au poste de Premier ministre. Bref, Marie Billon, ce fut une rentrée dramatique.
Les deux députés encore conservateurs en début de semaine, Dominic Grieve et Philip Lee, ovationnés par la foule lors d'un rassemblement unitaire sur les pelouses de Westminster. L'ambiance était survoltée ces dernières heures devant le palais qui abrite le Parlement britannique. Stop the coup, arrêtons ce coup d'État ou defend our democracy, défendons notre démocratie. Les mots sont forts. Parmi la foule, l'inquiétude est profonde chez les pros comme les anti-Brexit qui voient les politiques s'entre-déchirer sous leurs yeux. Les députés font des allers-retours du Parlement à la pelouse en face où sont installés les médias. Ils donnent interview sur interview. Parfois, certains parlementaires prennent un petit bain de foule, mais pas trop longtemps parce que c'était chaud bouillant devant Westminster et à l'intérieur. On nous dit qu'en votant pour ce texte, on tend automatiquement les rênes du pouvoir au chef de l'opposition. Je préférerais plonger ma tête dans de l'eau bouillante que de faire ça. C'est ce qu'a dit Philip Hammond, personnalité respectée, ministre des Finances il y a encore quelques semaines, éjecté du Parti conservateur mardi dernier. Il fait partie des 21 Tories rebelles, sanctionnés pour avoir voté contre leur gouvernement pour empêcher une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord. Parmi ces frondeurs, on trouve aussi le petit-fils de Winston Churchill, sorti sans ménagement du vénérable parti. Mais petit coup de théâtre à la sauce anglaise, la bande des bannis s'est quand même installée sur les bancs de la majorité, aux côtés même de Theresa May, l'ex-première ministre. Le message pour Boris Johnson était clair, tu nous as expulsés du parti, maintenant expulse-nous physiquement de tes bancs si tu l'oses. Il avait mine de ne pas les voir. Et il n'y a bien sûr pas que parmi les conservateurs que ça chauffe, hein, droite et gauche défient les conventions pour s'invectiver. Le premier ministre a lui-même joué avec les limites de la bienséance parlementaire.
But Mr. Speaker, I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Will he confirm again? Will he confirm?
Boris Johnson traite le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, de poulet au chlore, une sorte de poule mouillée désinfectée à la Javel, comme le font les industriels américains, aux grandes dames de l'Union européenne. Bref, on a pu se demander si les Britanniques perdaient leur flegme, mais les choses se calment. Les Lords, par exemple, la Chambre haute, avaient prévu de faire du filibustering, de faire traîner indéfiniment l'étude de la proposition de loi sur le no deal. Cette nuit, à 1h40 du matin, ils ont abandonné l'idée.
Well, goodbye, boo. Forevermore.
Pour les Irlandais, ce qui se joue en ce moment à Londres est particulièrement crucial. Avec toutes ces émotions, certains pourraient être tentés d'aller boire un coup. Mais l'Irlande change. À 10 minutes à pied de Temple Bar, à Dublin, le quartier où sont concentrés tous les pubs et tous les bars de la capitale irlandaise, il y a le Virgin Mary, un pub sans alcool. Frédéric Lebel est allé s'accouder au bar de cet établissement à consommer sans modération.
L'idée originale, c'était que ça devait ressembler à un pub. On devait retrouver l'atmosphère d'un bar et les saveurs d'un bar, mais le tout sans alcool.
Just without the alcohol.
Si le Virgin Mary ressemble à un pub, ce sera un micro-pub, version contemporaine et sophistiquée de la public house irlandaise, déco soignée et design. Oisin Davis, un des deux propriétaires et consultant dans le secteur de la boisson, et selon lui, le marché est en train d'opérer un tournant.
On se dit que si on peut ouvrir un tel endroit à Dublin, alors ça peut marcher n'importe où, parce que Dublin est tellement synonyme d'alcool. Ici, on a la brasserie Guinness, une des plus grandes brasseries au monde. Il y a aussi la distillerie de whisky Jameson, qui est à 120 mètres d'ici. Mais en même temps, 20% des adultes irlandais ne boivent pas d'alcool. Alors, quand on est tombé sur ces chiffres, on s'est dit que ça pouvait être un business intéressant. Les gens ici sont de plus en plus soucieux de leur santé. Ils ne boivent plus de la même manière. Ils sont un peu plus sélectifs. Ils ne sortent pas tous les soirs et ils ne veulent plus boire de l'alcool bon marché. Ils veulent des cocktails au top, des bonnes bières, des bons vins. C'est ça la nouvelle façon de boire en Irlande. Et surtout, les jeunes, ils boivent beaucoup moins qu'avant.
Signe des temps, 1500 pubs, surtout ruraux, ont fermé en Irlande depuis 2005, soit 2 pubs par semaine. Adam a 25 ans, il est venu avec sa petite amie, il se présente comme un sportif qui ne touche jamais à la bière.
On vient de passer un sacré week-end, alors on a décidé d'aller dans un endroit plus tranquille, plus cool. Et puis moi, je ne bois pas, parce que c'est meilleur pour ma santé.
Le créneau reste encore un marché de niche quand on sait que l'Irlande est un des pays où l'on boit le plus d'alcool au monde, 13,2 litres d'alcool pur par personne et par an, 2 fois plus que la moyenne. À la table d'à côté, Peter a rejoint son ami Steve, mais après une journée de travail, difficile d'éviter les pubs.
J'ai essayé de ne pas boire au cours des derniers mois. Bon, c'est vrai, le week-end dernier, le pari n'a pas vraiment été tenu. Bon, mais j'essaie régulièrement de faire des pauses dans ma consommation d'alcool. C'est agréable de venir dans un endroit où vous pouvez trouver l'aspect sociabilité sans le pendant alcoolisé. Parce que si vous allez dans un bar, on peut se sentir poussé à boire. Soit pour faire comme les autres, ou parce qu'on n'arrive pas à résister. Mais ici, il n'y a pas ce genre de pression.
Du vin blanc pétillant sans alcool, mais avec de vraies saveurs, car issu d'une vinification et désalcoolisé ensuite. Des cocktails avec des gins ou des spiritueux sans alcool. Des bières 0 degré, le marché du sans alcool se porte bien. Au Virgin Mary, Dublin oblige, on propose même une drôle de Guinness, Oisin Davis.
An ice drink that we make.
C'est une boisson sympa qu'on fait avec une bière brune sans alcool fabriquée en Hollande. On la mixe avec du café très très serré qu'on rajoute ensuite. C'est vraiment bon, vous avez toute la saveur d'une bonne bière brune mais sans l'alcool et avec un goût prononcé de café.
Pour faire comme les grands, le Virgin Mary n'ouvre ses portes qu'en fin d'après-midi, signe qu'il s'agit bien d'un pub et non d'un bar à smoothie.
La consommation d'alcool serait responsable de plus de 7% des maladies et des décès prématurés dans l'Union européenne. D'après les chiffres de l'UE, si les Européens restent de gros buveurs, dans les pays baltes notamment ou la République tchèque, chez de grands consommateurs traditionnels comme l'Allemagne, les ventes d'alcool sont à la baisse et on propose de plus en plus de bières à 0 degré. Un phénomène qui va avec l'adoption d'un mode de vie plus sain, plus sportif. Révolution au pays de la bière, les explications de Julien Méchaussy.
Connaissez-vous la Feierabend Bier, une institution en Allemagne? Allez déguster une bière fraîche après le travail entre collègues ou amis. Un pan de la culture allemande qui serait en danger d'après les dernières statistiques sur la consommation de bière. 1 400 000 hectolitres bu en moins les 6 premiers mois de cette année par rapport à 2018 et une tendance qui se confirme. Les grands brasseurs industriels s'attendent à vivre l'une de leurs plus mauvaises années. Ils ont tout de même une raison de rester optimistes. La consommation de bière sans alcool affiche à l'inverse une tendance à la hausse. Alors qu'elle représentait à peine 3% de part de marché il y a 10 ans, elle en est aujourd'hui à 6,5%. Et c'est surtout chez les jeunes générations que la bière sans alcool est très appréciée. Un changement qui épouse la hausse du nombre de végétariens ou de végétaliens et la volonté de consommer plus sainement. Les grands brasseurs allemands jouent donc désormais à fond la carte sans alcool et n'hésitent plus à multiplier encarts publicitaires et spots télévisés. Une multitude de nouvelles saveurs a ainsi fait son apparition, ce qui aurait constitué il y a encore une dizaine d'années un sacrilège, des bières aux notes d'agrumes ou encore de fruits exotiques. Mais avec 101 litres de bière consommée en moyenne par habitant, les Allemands restent dans le trio de tête des plus gros buveurs européens, loin devant la France et ses 33 litres. La Feierabend Bier a donc encore de beaux jours devant elle, avec ou sans alcool.
Vienne a de nouveau été classée ville la plus agréable du monde ces derniers jours. Les touristes ne s'y trompent pas et pour profiter du décor impérial de la capitale autrichienne, ils aiment déambuler en calèche, en fiacre, comme on dit là-bas. Mais ce que les touristes ignorent, c'est que ces fiacres font l'objet d'un débat depuis des années. La polémique a été ravivée cet été. C'est un reportage de Céline Béal.
À la belle saison, les fiacres défilent dans les élégantes rues du centre-ville viennois. Pour les touristes, comme l'anglaise Sue Taylor, en vacances ici pour une semaine, ces calèches tirées par deux chevaux sont une évidence.
Quand on les voit circuler dans Vienne, c'est tellement beau, j'ai voulu essayer.
Sue est enchantée par la déambulation dans un bel attelage. Côté touriste, rien ne transparaît du malaise. Pourtant, ceux qui vivent là le savent bien, la question des fiacres fait polémique depuis des années. Ainsi Zoé, une étudiante française qui vient de passer un an dans la capitale autrichienne, a bien évidemment, elle aussi, un avis sur les attelages et sur les odeurs d'urine qu'ils ont tendance à laisser derrière eux.
C'est vrai que dans le centre, ça sent. Je trouve qu'il y en a beaucoup dans la ville. On s'habitue, mais ça peut être parfois dérangeant pour les transports, parce que des fois, ça bloque un peu les bus ou les tramways. Au niveau du bien-être animal, je ne suis pas non plus 100% d'accord.
Du côté des entreprises de fiacres, on n'est pas content non plus. Mi-juin, une manifestation a même été annoncée. Elle a été finalement annulée au dernier moment, car la municipalité, imaginant déjà la pagaille dans les rues causée par un défilé de calèches, se montrait prête à ouvrir des négociations. Mais pourquoi les fiacres sont-ils si remontés ? Ursula Kutrasek, porte-parole de la branche à la Chambre de l'économie autrichienne.
Parce que nous avons eu des difficultés énormes avec la ville de Vienne. On nous a supprimé des places de stationnement sur la place Stephansplatz, alors que c'est notre meilleur emplacement. Et puis maintenant, ils parlent de remettre en question la Michaelerplatz, notre second meilleur emplacement. Là, franchement, c'est trop.
D'autant que le secteur a déjà fait des efforts, assure Ursula Kutrasek, elle-même à la tête d'une affaire de 38 chevaux et de 7 attelages. Interdiction du travail pour les chevaux si la température dépasse les 35 degrés. Et restriction d'accès au centre-ville, la circulation est interdite entre 22h et 11h.
C'est très contraignant, à la minute près. Si on arrive à 10h56 à Stephansplatz, on se prend un PV et l'amende coûte plus de 300 euros. Vraiment, c'est de la folie. Je crois que même les hôpitaux sont moins contrôlés que nous. C'est vraiment grave.
Du côté de la municipalité, on se dit prêt à discuter de certaines doléances, explique Léo Boubac, chef du service de la régulation de la circulation. Il reçoit dans le parc devant la mairie. Cette histoire avec les fiacres a l'air de l'embêter. Il se veut conciliant. Contrairement, dit-il, à certains élus qui voudraient carrément interdire les fiacres.
Nous ne voulons pas en arriver là, mais il faut réguler qu'ils ne soient pas en ville pendant les heures de pointe ou tard la nuit parce que cela fait du bruit et que cela perturbe la circulation aux heures d'affluence. C'est clair qu'il faut des règles.
Léo Boubac affirme que la ville va organiser bientôt une table ronde pour trouver un moyen de concilier les intérêts des uns et des autres.
Les traditions, c'est important pour Vienne, pour le tourisme aussi naturellement, mais il faut aussi tenir compte de la sensibilité de la population sur la question des droits des animaux et aussi des nuisances dont se plaignent les riverains. Il y a un changement dans la société sur ces questions.
Certains riverains se plaignent depuis longtemps du bruit, de l'odeur, des bouchons. Mais la question du bien-être animal s'est récemment imposée. Est-ce bien raisonnable de faire travailler des animaux dans une grande ville ? Et comment sont-ils traités ? Un jeune entrepreneur, Marco Polland, 25 ans, a eu l'idée de proposer des sorties en fiacre appelées « Geheimnisse der Fiacre », secrets des fiacres. Leur particularité ? Elle commence par un tour de son écurie.
Le but de la visite, c'est de donner aux gens l'occasion de se faire leur propre idée sur la façon dont on travaille, dont on soigne les chevaux.
Selon lui, les fiacres souffrent d'une image catastrophique dans la population locale. Elle serait avant tout due à beaucoup d'idées fausses sur la profession. Mais peut-être aussi que certaines entreprises familiales devraient se remettre en question. Elles se refusent parfois à abandonner leurs anciennes pratiques hérité des générations précédentes, selon le jeune homme.
Pour nous, ici, la tradition, cela veut dire transmettre la flamme et non pas transmettre une urne pleine de cendres. Et bien sûr, si cela ne dépendait que de moi, je demanderais un centre-ville sans voiture, où il n'y aurait plus que des fiacres et éventuellement des véhicules électriques, dans une certaine mesure.
C'est une idée en l'air. La politique de la circulation à Vienne mise actuellement sur d'autres mesures. Zones semi-piétonnes, pistes cyclables, transports en commun. Même les trottinettes électriques en libre-service, qui se multiplient sur les trottoirs, ont plus le vent en poupe. Et elles ont l'avantage, sur les chevaux, de séduire tant les touristes que les locaux.
La saison 2019 s'achève, la plupart des Européens ont défait leurs valises. C'est bientôt l'heure du bilan pour l'industrie du tourisme. Une activité qui représente 5-10%, voire beaucoup plus du PIB des nations européennes. L'Europe, c'est de très loin la première destination touristique mondiale. Palmarès de l'Europe touristique aujourd'hui dans Accent d'Europe avec Daniel Vigneron du site d'information myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Alors Daniel, quels sont les pays qui attirent le plus de visiteurs ?
En 2018, la France est en Europe le pays ayant accueilli le plus de visiteurs non résidents avec près de 87 millions d'individus. Elle est suivie par l'Espagne, 82 millions, l'Italie, 58 millions, puis nettement derrière par le Royaume-Uni et l'Allemagne. En outre, certains pays à population réduite accueillent un nombre proportionnellement très élevé de touristes étrangers, en particulier l'Autriche, la Grèce, le Portugal ou la Croatie, qui voit chaque année affluer 20 à 30 millions de visiteurs.
Ah, si je vous comprends bien, la France serait le pays le plus touristique d'Europe.
Pas forcément, Juliette. Il se trouve que la France, de par sa position géographique, est également un pays de transit, notamment vers l'Italie et surtout vers l'Espagne. Près de 15 millions de visiteurs se contentent de traverser chaque année l'Hexagone pour se rendre à leur destination finale. De surcroît, la France est moins un pays de long séjour que ses voisins du Sud.
Donc, les revenus du tourisme en France sont moins importants.
En fait, ils ne sont qu'un peu inférieurs aux revenus espagnols. 61 milliards de dollars contre 68 milliards en 2017. Mais ils sont supérieurs aux revenus italiens ou britanniques, ce qui montre que les touristes dépensent davantage en France.
Alors, quelles sont les destinations les plus prisées en Europe ?
Pour se concentrer sur les villes, certains seront peut-être surpris de savoir qu'en termes de visiteurs étrangers, Paris n'occupe, avec 16 millions de touristes, que la deuxième place derrière Londres, 20 millions. En outre, la durée moyenne du séjour à Londres est plus élevée, dans la mesure où le reste de la Grande-Bretagne attire moins les touristes que les nombreuses et célèbres régions françaises de l'intérieur ou du littoral. Le nombre annuel de nuitées dans la capitale britannique dépasse d'ailleurs les 70 millions contre 52 millions à Paris. Pourtant, les recettes touristiques, 17 milliards d'euros environ, sont équivalentes pour les deux capitales, car les dépenses quotidiennes sont deux fois plus élevées à Paris.
Et pour les autres villes, Daniel, comment ça se passe ?
Outre Istanbul et ses 10 millions de visiteurs, Rome accueille 9,5 millions de touristes étrangers devant Prague, Amsterdam et Barcelone. Vienne et Milan comptent 6 millions de visiteurs et des villes comme Berlin, Dublin, Madrid ou encore Venise tournent autour de 5 millions.
Oui, mais Daniel, on dit pourtant que Venise est totalement saturée.
C'est parfaitement exact. Mais n'oublions pas que le centre historique de la Sérénissime ne compte plus que 50 000 habitants et que surtout on estime à environ 25 millions de personnes les gens qui visitent chaque année Venise, car la majorité d'entre eux n'y passent qu'une journée sans recourir à un hébergement. Ce qui fait un ratio de 500 touristes par habitant contre 17 contre 1 à Paris.
Et comment est-ce que la ville compte lutter contre ce surtourisme ?
Depuis début septembre, la commune de Venise applique une taxe de 3 euros sur chaque excursionniste, c'est-à-dire les visiteurs d'une journée, et cette taxe passera l'an prochain à 5 voire 10 euros. En outre, depuis qu'un navire de croisière géant a heurté un quai à la fin du printemps, les navires de plus de 1000 tonnes sont désormais interdits d'accostage en ville et de circulation sur le canal de la Giudecca. D'autres villes prennent des mesures. Ainsi, Dubrovnik en Croatie, assaillie malgré sa taille réduite de 4 millions de visiteurs annuels, interdit l'accostage de plus de 2 navires de croisière par jour et limite désormais à 4000 le nombre d'entrées quotidiennes dans une vieille ville qui ne compte plus que 1500 résidents. Même des villes beaucoup plus importantes se considèrent victimes du surtourisme, comme Barcelone et ses 32 millions de visiteurs annuels, pour seulement 6 millions de touristes étrangers qui se logent en ville. Barcelone qui encadre drastiquement les locations Airbnb. Ou encore Amsterdam, visité par 20 millions de personnes par an, qui exclut les quarts de touristes en ville et limite les possibilités de location de logements privés.
À bientôt Daniel.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site rfi.fr.